Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Pour rendre mon école visible, je demande régulièrement aux élèves de l'école I Learn French de laisser des commentaires sur leur expérience sur le Google Business de l'école. Comme ça, ça aide l'école à être beaucoup plus visible. Donc, plus l'école a des commentaires positifs, plus elle est visible et plus il y a des élèves qui veulent suivre des cours avec moi et avec mon équipe. C'est aussi pour cette raison que ce podcast existe. Le but de ce podcast, c'est de rendre mon école et mes cours visibles pour qu'un jour, tu t'inscrives et tu suives des cours avec moi. Je n'ai jamais eu de commentaires négatifs ou d'élèves qui n'étaient pas contents avec mon école. Mais un jour, un certain Alex PZ EK, je pense que c'est un faux profil, m'a laissé une étoile en laissant le commentaire suivant. Sans oublier la promotion du cool et rebelle, voire grossier, donc en parlant de mon profil, au détriment de la qualité et des connaissances, tout ça pour seulement 250 euros de l'heure. Oui, car je facture 250 euros de l'heure, c'est mon droit, ça fait 15 ans que je travaille. Mais mieux vaut choisir ses collègues exploités qui, elles, sont sûrement mieux formées que moi. Eh bien oui, Alex, je travaillerai et je recruterai toujours des professeurs qui sont plus formés que moi et beaucoup plus intelligentes que moi. Ça fait la force de mon école et c'est aussi grâce à ça, le fait de travailler avec des personnes qui savent plus de choses que moi, que tu es le seul et unique commentaire négatif sur mon école. Ça la fout mal, hein, n'est-ce pas? Alors, il y a quelques années, j'avais recruté une professeure de français pour donner des cours particuliers et elle m'avait parlé d'une méthode d'enseignement qu'elle utilisait avec ses élèves dont je n'avais jamais entendu parler. La méthode verbotonale. À cette époque-là, mon podcast n'existe pas encore et ce que j'adore dans mon métier, ce qui me fascine, c'est le fait que je continue à apprendre des choses et des méthodes. J'adore la citation « Si tu es la personne la plus intelligente de la salle, tu n'es pas dans la bonne salle ou change de salle. » Et donc un jour, une autre collègue me reparle de cette méthode et là je me suis dit qu'il fallait que je creuse le sujet et que j'en parle dans mon podcast évidemment. J'ai donc posté sur LinkedIn un petit message. D'ailleurs, tu peux me suivre sur LinkedIn si tu es actif sur ce réseau social à Yasmine Le Cire. Je poste des choses tous les jours. Et donc je poste sur LinkedIn et c'est ma collègue Harmonie qui s'est proposée pour répondre aux questions sur la méthode verbotonale qui est totalement unique. Donc elle a accepté de partager avec nous son expérience avec cette méthode et en quoi elle consistait. Alors je tiens aussi à préciser qu'il y a eu quelques problèmes de connexion avec le son. Donc de temps en temps, il y a quelques mots qui sont coupés. Je m'en excuse, vraiment, je suis vraiment désolée, mais ça fait partie aussi des joies de l'enregistrement et du direct. J'ai adoré cette interview, la méthode verbotonale est vraiment hyper, hyper intéressante et je suis certaine que toi aussi, tu vas l'adorer. Bonne écoute de cette interview et si tu veux continuer à te former et à apprendre ton français, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, que ce soit sur Spotify, sur Apple, peu importe où, 5 étoiles, ça m'aide et ça nous aide à être beaucoup plus visible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Harmonie. Salut Harmonie.
Salut Yasmine.
Comment tu vas?
Très très bien. Écoute, ça fait plaisir d'être dans le podcast. En plus, ça fait longtemps que j'écoute, donc je suis très contente de participer.
Magnifique. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, donc bonjour tout le monde. Donc je suis Harmonie, je suis professeure de FLE, donc français langue étrangère. À la base, j'étais spécialisée dans les enfants. Et là, ces dernières années, j'enseigne beaucoup aux adultes, donc cours en groupe, cours privés, en entreprise ou avec la Commission européenne. Et en même temps, je suis coordinatrice pédagogique dans une école. Donc, je gère tout ce qui est organisation, des cours, des emplois du temps et tout ça. Donc, travail très intéressant et très stressant aussi à la fois.
Ah bah oui, j'imagine. Et pourquoi tu as suivi une formation plutôt pour enseigner à des enfants ?
À la base, je voulais devenir professeur des écoles, en fait. On va dire c'est un sacré revirement quand même. Et en fait, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai pu faire des stages d'enseignement en Irlande. Et en fait, j'étais fascinée par les enfants qui ne connaissaient pas le français. Et je me suis dit, il y a moyen de faire un truc. Et donc, après, je me suis spécialisée dans les enfants en FLE. Sauf que, bon, bah, tu connais le travail. On a besoin de savoir faire plein de choses en FLE. Et donc, de fil en aiguille, je suis passée des enfants aux adolescents et maintenant aux adultes.
Est-ce que tu as encore une petite préférence ou tu aimes les trois ?
Alors, j'avoue que les adolescents... Désolée, les adolescents anciens qui écoutent, mais franchement, je peux plus. Je jure. Non, les enfants, j'aime énormément les petits. Tu vois, j'avais des 7-8 ans, j'aimais beaucoup. Mais c'est très énergivore. Et là, ces trois dernières années avec les adultes, c'est différent, en fait, à chaque fois comme expérience. Et là, les adultes, c'est sympa parce que c'est beaucoup moins énergivore, soyons honnêtes.
Concernant les adolescents, t'as fait ça pendant combien de temps ?
Oula, j'ai fait ça pendant 5 ans, je crois, à peu près. Dans plusieurs pays, j'ai fait ça en France, j'ai fait ça en Hongrie, j'ai fait ça en Nouvelle-Zélande aussi. Au total, ça fait 5 ans, ouais, quelque chose comme ça.
Après, je vais te confier quelque chose. Moi non plus, j'aime pas trop donner des cours à des adolescents.
Ça fait plaisir à entendre.
Je donne des cours à un neveu éloigné de la famille, donc lui ça va parce qu'il est hyper motivé et tout, mais en général j'ai remarqué que par exemple les adolescents, c'est pas vraiment les adolescents qui voulaient apprendre le français mais plutôt leurs parents, et donc bah, parfois t'as des parents qui sont un peu exigeants, l'enfant est pas vraiment motivé, donc j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, donc je donne pas cours ni aux enfants ni aux adolescents, donc tu vois.
Non, mais je comprends en vrai, parce que, encore, ce que je disais, c'est que les enfants, j'avoue, un P et ils rigolent, ils trouvent ça fun. Ça met une ambiance, tu vois, mais les ados, il faut vachement gérer toutes les émotions, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les métiers de prof en général, mais il faut gérer vachement les motifs, le psychologique et tout ça. Et puis, comme tu dis, des fois, il y a des enfants, enfin, il y a des ados, ils sont là, mais ils n'ont vraiment pas envie d'être là, quoi.
Oui, c'est ça. Et toi aussi, t'as envie de dire, bah, tu sais, moi, j'aurais vraiment adoré t'aider à parler français, mais si t'as pas envie d'être là, malheureusement, c'est pas de ma faute. Mais oui, je comprends. Donc aujourd'hui, tu donnes essentiellement des cours à quel public ?
Hyper varié, en vrai, parce que... Donc, adultes, ça, c'est sûr, mais qui viennent d'horizons vraiment très différents. Donc, comme je disais, je travaille avec des étudiants de l'OTAN, Commission européenne, Actiris aussi en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, bah, c'est l'équivalent du Pôle emploi, mais en Belgique. Donc, j'ai vraiment des gens qui viennent de tous horizons et de tout horizon sociaux, on dira.
Ah oui, oui. Ça fait combien de temps que tu es en Belgique ?
2 ans, et là, je pars parce que je dois retourner en France, parce que je suis indépendante française.
Ah oui, auto-entrepreneur ?
Exactement.
Les auto-entrepreneurs.
Ah, on aime bien ça.
Oui, oui. Moi, je suis travailleur non salarié. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est pire. Par exemple, pendant les confinements, étant donné que j'étais justement travailleur non salarié, je n'ai eu droit à rien. Donc, ça a été très compliqué. Auto-entrepreneur, je pense qu'il y avait quand même un peu plus d'aide. Mais bon, ça reste quand même très compliqué d'être freelance. Et en Belgique et en France.
Ah, ça, c'est clair. Surtout avec les taxes en Belgique, c'est très impressionnant. Les taxes, hein.
Ah oui, oui, oui. Bah, en France aussi, tu sais, moi je suis en URL, je paye beaucoup.
Oui, oui. On aime se lancer soi-même et gérer son entreprise et faire des heures à pas compter.
Oui, 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 oui. Et puis de la TVA et tout ça, mon Dieu. Enfin bon, bref. Merci la France, merci l'Europe, parce qu'en plus, j'ai des clients qui sont dans toute l'Europe. Je dois collecter la TVA de chaque pays européen, mais tu sais, avec un taux différent, évidemment. Hein, donc, ils ne sont pas tous à 20% comme en France. En Belgique, c'est 21%. Je pense que Luxembourg, c'est 17%. Enfin, voilà. Tout un schmilblick pour mon comptable qui est pas très sympa en plus.
Bisous le comptable.
Bisous le comptable et qui n'écoutera jamais de toute façon cet épisode. En tout cas, si vous galérez avec votre expert comptable, que ce soit en Belgique ou en France, sachez que normalement le problème c'est pas vous, c'est très probablement lui ou elle.
Et les chiffres, et les gros chiffres.
Oh mon Dieu. Terrible. Harmonie, je voulais absolument en fait t'inviter dans le podcast car j'ai entendu dire que tu enseignais le français en te basant sur une méthode un peu particulière et je voulais absolument que tu partages avec nous cette méthode que je ne connais absolument pas. Donc très égoïstement, je voulais t'inviter pour la découvrir aussi, mais j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui apprennent le français qui seraient peut-être ravies de savoir qu'il y a d'autres méthodes, qu'il y a plusieurs méthodes qui existent pour apprendre le français. Harmonie, raconte-nous.
Alors, on va essayer de faire assez simple. Petit disclaimer au cas où, ça fait quelques années que j'ai appris, en fait, j'ai appris la méthode, donc qui s'appelle la méthode Verbotone, ou MVT pour les intimes.
MVT,
ouais, ça fait très, très spécifique, un peu magique, très complexe aussi à apprendre en vrai. J'ai été initiée dans mon master 2 à l'université de Poitiers et puis après j'ai fait une formation continue parce que c'est une méthode qui est assez complexe. Donc en gros, c'est une méthode de correction phonétique qui se base vraiment sur les erreurs très spécifiques à chaque apprenant. Donc en fait, c'est-à-dire que pour chaque langue, les étudiants vont faire des erreurs très inhérentes à leur langue quand ils vont apprendre le français, donc ce qu'on appelle des erreurs de prononciation. Et en fait, en fonction de leur crible phonologique, donc c'est la manière dont ils ont acquis spontanément le système sonore de leur langue maternelle, en fait, ils ont des façons d'apprendre, des façons de prononcer qui diffèrent complètement de la langue française, hein, tout simplement. Donc on essaie de travailler ça en fait avec la méthode verbotonale. C'est juste leur permettre de mieux entendre et de mieux prononcer le français. Et attention, on ne corrige pas l'accent, mais vraiment la prononciation. Parce que l'accent, c'est hyper important, on en a tous. Moi, j'en ai un en tant que française native. J'en ai un quand je parle français, j'en ai un quand je parle anglais ou toutes les autres langues que je parle. Mais la MVT, c'est super important vraiment pour permettre aux étudiants de bien prononcer et de ne pas, de bien se faire comprendre, de bien se faire entendre et bien comprendre et entendre la langue aussi.
Et c'est une méthode, donc la méthode verbotonale, ça existe depuis longtemps?
Alors, depuis les années 60-70, c'est un linguiste croate, donc du 20e siècle, alors j'espère, désolée pour les Croates, mais qui s'appelle Petar Guberina, avec l'accent français, Petar Guberina, qui a été prof de l'université de Zagreb, donc un linguiste qui a travaillé sur cette méthode. En fait, il s'est rendu compte que d'une personne à l'autre, bon après c'est une histoire un peu longue, mais d'une personne à l'autre, des erreurs de prononciation, des erreurs d'écoute aussi n'étaient pas similaires. Et il a voulu travailler là-dessus, il a voulu développer ça. Donc voilà, en gros, dans les années 60-70, c'était très utilisé dans les années 70-80 en France d'ailleurs. Et maintenant, c'est un peu tombé en désuétude, malheureusement.
Mais donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport à un groupe de personnes qui ont la même langue maternelle. Il va y avoir des exercices spécifiques, par exemple?
Ouais, exactement. Donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est que dans une classe, tu vas forcément avoir plusieurs nationalités. Et vraiment, chaque nationalité, par exemple, on va prendre les hispanophones en général, ils vont avoir, tu sais, ces petits problèmes avec les V. Au lieu de les prononcer V, ils vont les prononcer B. Ils vont aussi avoir des problèmes au niveau de la prosodie. Donc, la prosodie, c'est tout ce qui est rythme et intonation de chaque langue, tu sais. La langue, en fait, chaque langue a sa propre musique, en fait. Et tous les apprenants vont faire des erreurs plus ou moins similaires. Évidemment, ça va être très personnel. Mais en fait, les exercices spécifiques de la méthode verbotonale vont permettre d'évaluer, de poser un diagnostic et de derrière apporter les différents procédés de correctif, en fait, tout simplement.
J'allais dire simplement.
Ouais, parce qu'en plus, la méthode verbotonale, c'est hyper, hyper sensoriel. En fait, on va d'abord aider l'étudiant ou l'apprenant à bien entendre les sons du français. Et en fait, on joue beaucoup sur ce qu'on appelle la surdité phonologique. Je vais prendre un exemple hyper simple. Ma maman est portugaise et en fait, je parle portugais. Et parce que le portugais est très proche de l'espagnol et de l'italien, j'ai facilement appris à parler italien, à parler espagnol, parce que les sons sont très ressemblants. Et un jour, je suis allée en Hongrie. Et là, pour la première fois de ma vie, moi qui parle plusieurs langues et qui apprends les langues assez facilement, je me suis retrouvée à être sourde phonologiquement parce que je n'entendais pas ce qu'ils me disaient. Et parce que je n'entendais pas ce qu'ils disaient, j'arrivais pas à reproduire les sons. Ou alors, je reproduisais les sons que je pensais entendre en utilisant des sons de ma propre langue. Ce qui fait que, des fois, j'essayais de leur parler et je voyais bien qu'à mon avis, je venais de dire mais n'importe quoi. Et franchement, la surdité phonologique, quand on se met la tête dedans, mais c'est un peu vexant quand même.
Ah oui.
Non, ouais, non, c'est, je te jure, j'essayais de dire des trucs et les gens me disaient non, mais c'est ce son-là. Quoi, c'est ça? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, t'as pas dit ça du tout.
Là, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast et qui doivent se reconnaître, par exemple, la différence entre le « et » ou « est ». Et quand c'est certaines personnes elles disent « mais non, c'est la même chose », je dis « non, je te promets, c'est différent. Il y a « et » et « est ».
Ah ouais, complètement d'accord. Et puis, tu sais, il y a les... Bah, tu connais parce que tu parles portugais. Les lusophones, ils n'arrivent pas à entendre la différence entre « ou » et « e ». Ils ne l'entendent pas. Mes étudiants lusophones, à chaque fois, je suis en train de leur faire la traduction en portugais en leur disant « alors en fait, c'est plutôt comme ci, comme ça », et ils me regardent, ils disent « j'y arrive pas, je comprends pas ». Et en fait, c'est difficile parce que, tu sais, il faut... Je vais peut-être utiliser une métaphore un peu de construction dans le bâtiment, tu vois, mais il faut déconstruire leur oreille pour la reconstruire avec le bon ciment.
Ah oui, non, mais c'est un bel exemple parce que, tu vois, moi, je dis toujours à mes élèves, tant que tu n'entends pas bien le son et que tu n'arrives pas à l'identifier, tu ne pourras jamais le reproduire.
Exactement, c'est ça.
Donc, ça. Forcément, il y en a qui essaient le « et » ou « est », parfois, ce n'est pas choquant. En plus, par exemple, j'en parlais l'autre jour avec un élève, il y a des personnes de la même région qui habitent, par exemple, Paris, et ils vont dire « poulet » et l'autre va dire « poulet ». Alors, les deux sont corrects, mais en fonction de la langue maternelle et de la région, il y a des personnes qui vont dire plus « et » ou « est », mais il faut absolument pouvoir les identifier, sinon c'est compliqué pour les répéter.
Oui, et puis après en français aussi, tu sais, on a les fameux sons nasaux, les en, on, un. Bah alors ça, c'est de la torture pour tous les étudiants.
Hein. Ah oui.
Oh,
oui,
les pauvres. À chaque fois.
Et après, dans le sud, parfois, tu entends le N. Alors, toi, tu te tues à la tâche pour dire non, le N, il est visible, mais c'est juste pour une indication pour te dire que c'est un son qui vient du nez. Et puis après, ils vont dans le sud et puis ils disent bien. Et t'es là, oh.
Ouais, mais on accepte parce que finalement... voilà. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est avec la MVT, c'est qu'en fonction des régions, tu vois, bah, en fait, la personne grâce à laquelle j'ai pu faire ma formation continue, c'est Michel Billiard, c'est un spécialiste de la correction phonétique, et il est prof des universités, et lui, il est prof des universités à Toulouse. Ah. Et en fait, dans la formation continue que j'ai faite l'année dernière, donc en fait, ils font des MOOC assez régulièrement. Et en fait, dans le MOOC de l'année dernière, ils disaient « Et qu'est-ce qu'on fait du fameux E ?» Tu vois, le E qui prononce à Toulouse que nous, dans le nord de la France, on laisse un peu tomber, tu vois, par exemple. Mm-hmm. Donc, comment tu fais pour les différents accents? Quand t'enseignes le français à un étudiant, tu fais quoi? Tu prends quel français? Tu prends le français du Canada? Enfin, du Québec, tu prends le français du sud de la France, tu prends le français de la Belgique. Ça, c'est complexe aussi, tu vois, en fonction du prof, la prononciation va beaucoup changer aussi.
Clairement, bah, rien que les numéros aussi, hein, 70, 70.
Ah ouais, non, full 70.
C'est, moi, je fais de la résistance, hein, ça va faire 8 ans que j'habite à Paris, c'est toujours 70 et 90. Hein.
T'as raison, donc, je valide complètement.
Oh mon Dieu, alors j'enseigne le 90 et tout à mes élèves parce que forcément ils veulent apprendre le français de France, mais pour moi c'est une torture absolue et je sais pas comment ils ont fait à l'époque en France pour envoyer des hommes sur la Lune avec des chiffres pareils, c'est pas possible.
C'est une excellente question.
Ouais, je me dis, mais... Enfin bon. Juste une petite note pour les personnes qui ne connaissent pas MOOC. Donc, c'est M-O-O-C. Et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un type de formation digitale préenregistrée qui sont très souvent gratuites ou avec un petit budget, on peut avoir un diplôme. Et donc, c'est des formations qui sont en ligne sur différents sujets. Il y a absolument tout. Et il y a aussi, évidemment, des formations en français. Est-ce que tu te souviens de la formation que tu avais suivie, si elle avait un nom particulier? Tu t'en souviens de mémoire?
Mince, je l'avais noté hier. Non, mais je pourrais l'envoyer si jamais tu veux les mettre en détail du podcast.
C'est quoi? C'est genre correction phonétique MOOC, à mon avis, on trouvera sur...
Oui, c'est ça, avec l'Université de Toulouse. Ouais, exactement, ça prend 2 secondes. C'est vraiment sur la plateforme. Il y a une plateforme qui s'appelle MOOC, en fait, hein, je crois, tout simplement.
Ouais, je crois. Il y a MOOC, il y a FunMOOC, il y a EdX aussi. Enfin, il y en a plein. De toute
façon, c'est FunMOOC. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Mm-hmm. Et MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course.
Ah, voilà. Magnifique. Merci Harmonie.
J'ai carrément été sur Google.
Mais c'est très bien. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore hein, les MOOC. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a accès à des sujets de la maison qui sont normalement donnés que dans les universités et parfois même pas dans les universités, dans la ville dans laquelle on habite. Et donc, c'est vraiment... Bah oui, massive.
Massive Open Online Course.
Voilà. Donc, si vous cherchez des formations en français, mais même dans toutes les langues, les MOOC, c'est très, très bien. Ensuite, donc, continue, tu fais cette formation et qu'est-ce qui se passe ?
Déclic. Je me suis dit, ah, je crois que je peux enfin aider mes étudiants à prononcer, à entendre la langue et à se faire comprendre. Et ça, c'est une méthode que j'ai franchement adorée parce que, en gros, j'ai fait mes études à Poitiers, à l'université de Poitiers, et j'ai fait des études très poussées sur la linguistique, à étudier. Il y a une autre méthode pour réussir à prononcer les mots, c'est ce qu'on appelle la méthode articulatoire. C'est ce qui est la plus utilisée maintenant. Et la méthode articulatoire, c'est savoir avec des schémas, savoir comment placer ta bouche, l'aperture, hashtag l'ouverture de la bouche, comment placer ta langue, en gros, comment utiliser le système phonatoire. Mais c'est très schématique, en fait, et ça passe pas par divers procédés de correction, si tu veux. Et là, en fait, la méthode verbotonale, elle est vachement basée donc déjà sur la prosodie, donc le rythme et l'intonation. Et ça joue beaucoup aussi avec la corporalité, c'est très gestuel, en fait. J'utilise tout mon corps, en fait, quand je fais de la MVT avec mes étudiants. Et si tu veux, la relation apprenant-enseignant, quand je fais de la MVT, c'est un truc que je trouve vraiment fou parce qu'on travaille tellement sur l'empathie, sur l'échange, que des fois, j'ai des étudiants, à force d'être avec moi, ils finissent par automatiser leur correction. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Par exemple, mes étudiants... alors, j'avais noté un exemple de correction. Je vais essayer de l'expliquer proprement.
Vas-y.
Les lusophones, ils confondent les U et les OU. On part du principe, en fait il y a plusieurs schémas qui existent pour les consonnes et pour les voyelles en méthode verbotonale. Je vais pas vous ennuyer avec la partie trop scientifique, mais en gros on va partir du principe que le OU est très sombre par rapport au U qui est très clair, et en fait on va jouer sur différents mouvements pour aider l'étudiant à se détendre, à éclaircir, entre guillemets, le son. Et en fait, on va cumuler différents procédés. Donc, je vais faire une gestuelle facilitante avec ma main, si tu veux. Je vais souvent faire tomber la main, je vais faire tomber le corps. Je vais les aider, en fait, à bien comprendre comment prononcer le mot. Et en fait, si tu veux, ils ont tendance à reproduire la main qui part, par exemple, on va dire, de mon visage et qui descend vers ma taille en faisant une espèce de courbe. Et quand ils entendent l'erreur et qu'ils la comprennent, je les vois qu'ils reproduisent automatiquement ce que je leur ai appris. Et je trouve que cette empathie prof-enseignant, elle est hyper enrichissante. Et voir les étudiants s'auto-corriger, c'est encore mieux pour moi, quoi.
Est-ce qu'il y a des notes qui sont prises pendant les cours avec cette méthode ?
Non, parce qu'en fait, contrairement à la méthode articulatoire, elle est super... c'est que de l'oral, en fait, si tu veux. C'est vraiment tout ton corps, il n'y a rien qui est écrit au tableau. Et je leur dis juste, voilà, toi, dans ta langue, tu as tendance à faire cette erreur. C'est une erreur complètement normale. C'est un son que tu n'as pas dans ta langue, c'est un son que tu n'as jamais entendu. Mais après, tout le reste, ça va se faire debout. Un peu comme si tu essayais de faire un échauffement pour le théâtre, tu vois, par exemple. C'est super corporel, en fait.
Et c'est pour quel... Il y a des niveaux spécifiques où on peut faire... Cette méthode, elle est applicable dès le niveau débutant?
De mon point de vue, c'est applicable dès le niveau débutant. Parce que j'ai tendance à me dire, tu vois, dès le niveau débutant, les étudiants, ils n'ont pas encore fossilisé leurs erreurs. Que quand tu arrives avec des B2, C1 qui ont fossilisé leurs erreurs de prononciation ou qui n'ont pas encore bien détruit, entre guillemets, leur surdité phonologique, c'est un peu plus difficile, c'est un challenge supplémentaire. Moi, je le fais dès les débutants. Par contre, le problème qui peut se poser, c'est un problème plutôt socio-culturel, en fait, si tu veux. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe qui, n'importe quand, sans avoir créé une vraie relation avec ton ou tes étudiants. Je vais prendre les exemples des Japonais. Tu sais, ils sont souvent... Tu vois un peu comment ils sont. Ils sont pas super expressifs. Souvent, quand ils sourient, ils mettent la main devant la bouche. Ils font attention aussi. Ils sont très réservés. Mes hispanophones ou mes Italiens, c'est pas la même chose, tu vois. Ils sont très ouverts. Et on fait des erreurs et tout. Et en fait, pour permettre la méthode verbotonale, il faut vraiment assurer une bonne cohésion de classe et vraiment mettre les étudiants dans de bonnes conditions, dans un environnement bienveillant. Donc, c'est pas tant une question de niveau. Pour moi, c'est surtout une question socioculturelle, en fait.
Donc, pas dans un trop grand groupe, j'imagine ?
Ouais, exactement. Un groupe de 40, c'est même pas la peine. Moi, je le fais entre... ouais, franchement, 8 max. Parce que 10, ça me paraît un peu beaucoup, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs à gérer. Mais 8, c'est pas mal.
Oui, déjà, 8, ça doit être le maximum. Ouais. Juste une petite parenthèse, donc une erreur qui est fossilisée pour les personnes qui nous écoutent. Fossilisée, donc ça vient de fossile, donc c'est en fait une erreur qui a été apprise parce qu'il n'y a pas eu de correction ou parce qu'il n'y a pas eu le bon format et qui reste pendant très longtemps. Le problème avec les erreurs qui sont fossilisées, ça va être de les défaire, donc de déconstruire cette erreur. Et parfois, ça arrive quand on apprend le français seul ou on refuse d'avoir un vrai budget pour des cours et donc on va dans des groupes. Non, mais faut dire la vérité, ça fait des parties des erreurs typiques. Donc, on refuse d'avoir un budget pour les cours ou on n'a pas le budget, ça arrive aussi. Et donc, on va suivre des cours soit seul, sans structure, donc sans correction, ou ensuite des cours en groupe, mais c'est des cours en groupe gigantesques avec beaucoup trop de personnes. Et donc, on continue à reproduire les erreurs qu'on pense que c'est correct. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps pour les défaire. Donc, les erreurs qui sont fossilisées. Et ça, en général, ça arrive au niveau intermédiaire, donc B1, B2, C1. Donc, c'est des petits bagages qu'on prend avec nous. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai dit pendant 10 ans ou plus, on m'a corrigé l'année dernière seulement, en anglais, je disais « in the train ». Et en fait, on m'a dit que c'était « on the train ». Et j'ai dit « non, mais sérieux ?» Toute ma vie, j'ai dit « in the train », parce que pour moi, c'est « in » comme « dans », tu vois, genre « in the train ». Et fait « non, it's on the train ». J'ai fait « oh !»
J'ai eu le même problème.
Ah, tu vois.
Avec ça et avec le... Et on m'a corrigé l'année dernière, alors que ça fait plus de 10 ans que je parle anglais, avec le « didn't », avec le « did ». Tu peux pas dire « didn't saw » ou « didn't learned ». Il faut que tu dises « didn't see » ou « didn't learn ». Tu peux pas conjuguer le verbe qui se fait. Moi, je... Bon, écoute, ça fait 10 ans que je dis « didn't saw », tu vois. Ça, c'est une sacrée erreur fossilisée parce que en étant consciente, je fais quand même l'erreur parfois.
Ah oui, moi aussi. Moi, je continue à dire « in the train hein. ». Je continue. Écoute, ça me paraît tellement... Voilà, donc c'est exactement l'erreur fossilisée. Donc nous, francophones natifs, voici le type d'erreur fossilisée qu'on trimballe avec nous, qu'on embarque partout. Et parfois, on va s'auto-corriger parce que quelqu'un nous a corrigé finalement après je ne sais pas combien d'années, décennies dans notre cas.
C'est clair.
Et donc pour nous, c'est très compliqué de remettre la forme correcte. Donc investissez dans des bons cours avec une bonne structure pour éviter de faire les mêmes erreurs que nous et de ne pas dire « in the train » ou « didn't so ».
Écoute, voilà. Je pense qu'on peut arrêter le podcast ici, c'est parfait.
On est tous polyglottes, on parle plein de langues et tout, mais nous, on est les premières à faire des erreurs et à comprendre aussi les galères de nos propres étudiants parce qu'on est passé par là et on passe encore par là. Donc voilà, si on est de bonnes professeurs et on donne nos cours sont très très bons parce que on sait exactement ce que c'est que d'apprendre des langues. Donc I didn't so, c'est typiquement une erreur fossilisée. Voilà l'exemple.
Magnifique. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que pour le coup, puisqu'on apprend plusieurs langues, qu'on parle plusieurs langues, effectivement, ce coup d'être hyper empathique avec les étudiants, c'est pour ça que la MVT, pour moi, ça a été genre l'illumination. Je me suis dit, mais en fait, c'est utile pour tout le monde, ça peut se faire dans toutes les langues. Et oui, évidemment que je vais aider les étudiants, parce que des fois, on se sent impuissant quand on n'est pas capable de corriger leurs erreurs et les aider à mieux penser.
Bah oui. Oui, c'est une frustration, hein, si on voit que l'étudiant n'arrive pas à comprendre. Moi, je leur dis à chaque fois, si t'as pas compris ce que je t'ai dit, c'est que je fais pas bien mon travail. Donc, il faut me le dire, je corrige, je trouverai une autre manière de te le faire comprendre. Mais mon boulot, c'est que tu partes de la classe en ayant appris quelque chose. Avec la méthode verbotonale, donc tout est à l'oral, rien qu'il y a rien d'écrit. À partir de quel moment il y a un accès ou une introduction à la grammaire?
Alors,
toi, comment tu fais, hein?
D'accord, parce que je suis en train de dire, mince, la MVT, il n'y a pas de grammaire dedans.
Non, mais toi, à partir de quel moment, selon ton expérience et ton travail, toi, quand est-ce que tu sens qu'on peut commencer à étudier un peu la grammaire?
Bah, en fait, j'avoue que ça va plutôt être l'inverse. C'est, je vais leur apprendre à parler, leur faire de la grammaire, faire mes activités normales, en fait, à l'oral. Et en fait, c'est quand je vois le besoin d'avoir recours à la MVT que je vais le faire.
Ah, ok.
Tu vois ? Parce que, en plus, là, le format, les formats de cours que j'ai, que ce soit en ligne ou en présentiel, fait que je ne peux pas mettre en place des vraies sessions de méthode verbotonale de 30 minutes, par exemple. J'ai des étudiants qui changent assez régulièrement, on va dire à peu près toutes les 3 semaines, en fonction des écoles avec lesquelles je travaille. Et en fait, je vais aller vraiment dans la spontanéité. Je vais dire aux étudiants, venez, on travaille la prononciation, parce que bah, c'est tout ce que la majorité des étudiants veulent, hein, de toute façon. Et en fait, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je corrige votre prononciation ? Et quand ils me disent oui, c'est à ce moment-là que je vais faire de la méthode verbotonale, de manière très discrète. Et comme maintenant, j'arrive à comprendre, j'ai les automatismes, ça devient... J'ai pas trop le temps de poser un diagnostic parce que je connais déjà les erreurs de mes étudiants. Donc en fait, c'est plutôt comme ça. Je fais mon cours normal et quand je vois qu'ils ont besoin, là, je leur apporte l'aide dont ils ont besoin.
Bah c'est parfait parce qu'en général, dans les cours, on va dire, classiques, la prononciation est très souvent survolée. On pense que voilà, c'est acquis, mais vu que, par exemple, parfois, c'est des cours en groupe, on ne peut pas passer trop de temps à travailler la prononciation. Et puis, comme tu dis, parfois, c'est cas par cas en fonction de la langue maternelle. Par exemple, les personnes, les hispanophones, donc les personnes qui parlent espagnol comme langue maternelle, ils vont avoir du mal à, comme tu as dit, le B et le V, ou sinon le U, une de leurs lettres.
Ah là là, le U, je te jure.
Le U. Et mais oui, donc c'est bien de pouvoir avoir des méthodes qui les aident à entendre, à identifier pour pouvoir imiter et répéter plus tard.
C'est ça, exactement. Puis le fameux S aussi, tu sais, en début de mots où ils disent pas stylo, ils disent estilo.
Ah oui, estive.
Et ouais. Et c'est ça, exactement. Donc là, en fait, à chaque fois, je leur dis, alors attendez, écoutez bien la façon dont je le dis, je vais vous aider, on va passer par tel truc et tout. Et franchement, après, ils y arrivent bien. Mais c'est vrai que pour chaque langue, il y a tellement d'erreurs que des fois, tu sais, ok, alors attends, tu m'en as fait 10 dans la même phrase, c'est ok, mais par laquelle je commence ?
Oui, et la plus importante.
C'est ça, exactement. C'est là, en fait, celle qui va vraiment poser le problème de la compréhension.
Donc, c'est pour tous les niveaux.
Oui.
Et est-ce que tu recommandes aux élèves de se former seuls avec cette méthode ou c'est mieux d'être quand même accompagné par un professeur ?
Non, pour moi, par un prof. C'est tellement... C'est vraiment de la linguistique et de la didactique pure, en fait. Il y a tellement de notions à prendre en compte que... Enfin, moi, honnêtement, j'ai fait une formation sur un mois, j'ai travaillé tous les jours, j'ai des schémas. Et en fait, si t'es pas linguiste de base, si t'as pas une formation de linguiste, honnêtement, je sais pas comment un étudiant il pourrait réussir à s'en sortir.
Ouais, oui, mais je comprends. Après, c'est ça aussi le problème, par exemple, des personnes qui veulent se former seules, ils pensent que, voilà, ils ont accès... Par exemple, bah, YouTube ou les trucs comme ça. Et parfois, quand t'as pas les bases, c'est un peu compliqué. C'est la même chose aussi avec les langues étrangères. Donc, des personnes qui veulent apprendre le français tout seul, mais ils savent pas comment apprendre une langue en général. Et puis après, bah, ils regardent 2-3 vidéos, puis ils disent « Ah non, c'est trop compliqué, j'arrête. »
Ouais.
Harmonie, voilà. Avant de te laisser partir, je pose toujours une dernière question à mes invités. Tu es professeur, donc la question va peut-être être un peu difficile. Pour une personne qui a envie d'apprendre le français, qui a envie de continuer à améliorer son français, est-ce que tu pourrais, en tant que professeur, donner un seul conseil ?
Un seul ? Oh wow !
Je t'avais dit que la question était difficile.
Est-ce que plein dans une seule phrase, ça passe ? Mais,
tu peux regrouper plusieurs idées qui sont dans... Ouais.
Mais ok, vas-y. Alors, le stress, honnêtement, je dirais, amusez-vous, faites vos expériences, merci, je sais, amusez-vous, venez avec moi, amusez-vous, faites vos expériences, faites des erreurs aussi, les erreurs, pour moi, c'est hyper important, c'est hyper formateur, et on s'en fiche de votre accent. Franchement, soyez fiers de votre accent et je pense peut-être le plus important finalement, entourez-vous de personnes bienveillantes dans l'apprentissage. Parce que les personnes qui se moquent de vous parce que vous avez un accent, parce que vous ne connaissez pas un mot, c'est pas des personnes avec lesquelles il faut apprendre n'importe quelle langue en fait.
Ouais, non mais c'est vrai, parfois j'ai des élèves qui sont mariés à un francophone et par exemple il y a la belle-mère qui fait des remarques ou des choses comme ça. Sinon, il faut pas traîner avec des personnes qui vous font comprendre que vous n'êtes pas natif ou que vous n'avez pas un bon niveau en français. C'est des gens qui stressent plus qu'autre chose.
Oui, puis donc, en plus, est-ce que ces personnes-là savent parler d'autres langues aussi?
Oh, en général, non.
Voilà, évidemment. Enfin, pourquoi être gentil dans ces cas-là?
Oui, oui, voilà, c'est ça. En général, ça parle qu'une seule langue et ça critique les personnes qui essaient d'apprendre le français. Ils sont nombreux aussi. Harmonie, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, qui ont envie de prendre des cours avec la méthode MVT, méthode verbo-tonale. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Eh ben, tout simplement sur LinkedIn, parce que je ne suis pas sur les réseaux.
Waouh!
Oui, effectivement, madame est très fermée. ou passer par Alain French, parce que du coup, Yasmine me propose des cours aussi.
Voilà. Sur LinkedIn, ouais. De toute façon, je mettrai le lien de ton profil dans les notes de cet épisode pour les personnes qui veulent te contacter. Harmonie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous la méthode verbotonale.
Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité surtout.
Avec plaisir. Salut, salut.
Salut, à bientôt.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!